Bienvenue sur Allegre FM 93.1, je suis Kad, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur les sports féminins. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence, ce soir, on va parler flèche, cible, carquois, corde, encoche et grippe. Non, on ne va pas parler d'un énième reboot de Robin des Bois par Christopher Nolan ou Zack Snyder, mais ce sport noblement appelé le tir à l'arc. Nous brosserons ensuite un portrait de la légende sud-coréenne Lim Si-yeon, triple médaillé d'or au JO de Paris 2024 à seulement 22 ans. C'est que le début, comme on dit. Et enfin, en troisième partie, nous parlerons librement de l'Asie du sport, tradition ou réelle ambition. Pour cet épisode, je serai accompagné de Shai, dite la voyageuse solitaire du pays du fromage. Ça va, Shai ?
Ça va super, et toi ?
Excellent, parfait. Contente d'être là ?
Oui,
parfait.
Toujours.
Où que vous soyez, bonne écoute. Merci de votre attention. C'est l'épisode 11 de la saison 2. Chers auditrices, auditeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de tir à d'arc. Tir à d'arc, comme Mireille d'Arc, bien sûr, rien à voir. Ma langue à fourcher. À chaque émission, de toute façon, j'ai un blablabla qui ressort, c'est celui-là. Un sport particulier nécessaire pour se nourrir à une certaine époque, le tir à l'arc, n'en déplaise à ces marcheurs munis de bâtons sur le trottoir. Rien à voir. Je crois que je n'ai pas pris le bon truc. Alors, le tir à l'arc, est-ce que tu as déjà fait du tir à l'arc, ma chère ?
Non.
Jamais ?
Jamais. Bah, en même temps, est-ce qu'il y a des endroits en France pour faire du tir à l'arc ?
Oui, plein.
Ah merde.
Il y en a plein, ouais.
Mais c'est pas forcément une discipline à laquelle on va penser, je pense. Hein.
Du tout. Le tir à l'arc est vraiment un truc particulier. Après, en France, on est quand même pas mal en soi. On va pas se mentir. Déjà, c'est la Fédération française de tir à l'arc qui s'occupe du tir à l'arc. Et ça, c'est bien. Déjà, on est une fédération.
C'est vrai, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'adhérents et de personnes qui font le sport.
Exactement. Bien vu.
Bah.
Merci. Merci beaucoup.
C'est le côté juridique.
Alors, ce que j'allais dire. Factuel, bien sûr. Alors, déjà, on va prendre un petit temps. Est-ce que cette semaine, ça s'est bien passé ? Est-ce qu'il y a des projets pour la fin d'année ?
Non, pas forcément. Ça va être travail, travail, travail. J'ai épuisé tous mes congés.
Ça y est, t'es déjà à
vie. Pour voyager. J'ai voyagé. Donc j'ai
mais où as-tu voyagé ?
Je suis allée en Corée.
Et tu as fait quoi comme ville ?
J'ai fait Séoul, ouais. Jeonju, ouais. L'île de Jeju et Busan.
Ah, Busan, ça devait être fou.
Ah, c'était incroyable. Mais ça n'a rien à voir avec Séoul. C'est incroyable comment, quand tu changes de ville, c'est une toute autre ambiance.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Il y a vraiment... Tu sens le changement ?
Ah bah, Séoul, c'est, tu cours de partout, c'est hyper connecté, t'as des métros, enfin, tu fais le tour de la ville assez facilement. À Busan, t'as deux endroits, t'as le nord et t'as le sud. T'as le nord qui est hyper connecté, tout ce que tu veux, mais quand tu veux aller dans le sud, tu prends un bus.
Oh.
Alors déjà, tu... Voilà, et tu... Une heure et demie, hein.
Ouais, un bon Mantes la jolie Paris.
Bah, franchement, oui. Et moi qui voulais voyager... et m'organiser, c'était hyper compliqué. Parce que je me suis dit, je reste dans le nord pour pouvoir être tranquille, ouais. Justement, près des hôtels, près de la plage et là, des activités. Il y avait un temple et la tyrolienne dans le sud.
Okay.
Voilà, j'ai pris le bus, j'arrive, je fais mon petit temple, parce que voilà, je suis tranquille. Et au moment où j'arrive à la tyrolienne, c'est fermé, parce qu'il y a trop de vent. Je suis revenue le lendemain, ah ben pareil. Et je suis revenue le surlendemain, pareil. Donc j'ai fini par abandonner.
Ah oui.
Mais tu vois, quand tu perds une heure et demie.
Ouais, une heure et demie par jour. Ouais, c'est fou. Mais écoute, tu vas nous raconter ça plus en détail juste après. Juste avant ça, évidemment, on a les questions de la semaine. Alors merci à Sandrine d'avoir trié ces 9999 mails, dont 9998 spam. Pour nous envoyer un message, c'est championne@aligre.org, bien sûr. Et cette semaine, nous avons un message de Léo Salami. Léo Salami 92. Il nous écrit ceci. Que pensez-vous des médias actuels ? Alors accrochez-vous à vos slips, je vais répondre ça comme les médias actuels. Alors merci du message Léo Salami 92. Alors les médias, vraie question. Parle-t-on des médias d'information ou de médias de déferlement d'informations polémiques, incitation à l'émotion, vous mettant dans la spirale de l'indignation, programmée, puis de diversion pour s'insurger sur le prochain sujet tout en oubliant le précédent. Nous sommes dans une ère de la submersion cognitive et je vous jure que c'est pour ça que vous êtes tous fatigués à l'heure actuelle. Pas le temps de digérer. On repart sur le gavage. Nous sommes les oies de la République. Pas le temps pour le sens critique ou le recul. Il faut livrer le foie gras de votre attention. Car attention, votre temps, d'attention, c'est de l'argent. En attendant, les lois sont votées sans nous et on s'habitue au pire à coups de faits divers en oubliant le meilleur, les JO de Paris 2024. Sarkozy en prison, Marine Le Pen en appel, Rachida Dati bientôt jugée, la victoire du PSG en Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est ça le bonheur maintenant en 2025? Un événement sportif ou un politique véreux qui tombe? Si vous suivez l'actualité, c'est une course effrénée d'un lapin en rue de sous-amphétamine. Oui, que des mauvaises nouvelles et avec de l'amnésie partielle. Qui se souvient de François Bayrou et le scandale de Bétarame? François Bayrou et Burger King, de Magali Berda et des influx voleurs. Elle a quand même une émission sous radio actuellement. Morandini et ses castings, une émission sur CNews. Et en plus, les stagiaires d'Europe 1 sont cachés dans des caves pour pas le croiser. Chine au BHV, dans un mois, vous aurez oublié ça. Et pourtant, en juillet dernier, ils étaient déjà condamnés à 40 millions d'euros d'amende. Qui s'en souvient? Le caca dans les eaux en bouteille, on vous regarde, Nestlé plus jamais contre Aix, plus jamais. Elon Musk viré du gouvernement Trump avec son bras droit en salut romain. La situation en Palestine, où la famine atteint un seuil critique bien plus grand que le taux de cholestérol du sénateur Gérard Larcher, son fauteuil à 34 000 euros. Oui, vous avez oublié ça aussi, j'en suis sûr. Et l'Ukraine, les offensives russes actuelles sont les pires du conflit. Et pas de plateau H24 comme au début de cette guerre. Tu me diras, les Ukrainiens, au moins ils ont des armes et pas des cailloux comme les Palestiniens. C'est quoi cette amnésie? On dirait Jacques Chirac en fin de carrière. Et les féminicides, on en parle? 145 depuis le début de l'année. C'est devenu plus dangereux de prendre l'avion en France que d'être chez soi, tranquille, avec sa femme. Et oui, c'est même plus simple de prendre un tube en métal envoyé à des centaines de kilomètres dans le ciel plutôt que de vivre à côté de son mari. Alors moi, je veux pas oublier. Je veux pas vivre un éternel malheur de fuite en avant. Je veux prendre le temps, analyser, éviter de réagir à chaud. Car quand c'est chaud, ça brûle, tonnerre de Zeus. Alors je n'oublie pas. Le 13 novembre 2015, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle une seule fois par an et après plus rien. Je me rappelle à chaque fois que je sors de chez moi, que je prends les transports ou que je vais danser. Et pas à la manière des médias, pas la peur, pas comme Arthur sans maquillage. Non, la fierté d'être libre. Français, métis, banlieusard, croire en ce qu'on veut et personne m'empêchera de dire ce que je veux, d'aller où j'ai envie, la liberté, de passer du temps à rire avec mes proches. Parce que c'est ça la joie, ce sont ces moments suspendus, c'est rire avec l'autre, sauf si c'est un fasciste, mais avec l'autre bien sûr. Égalité, ensemble. Avec nos différences. Les apparences et les préférences ont trop d'importance, acceptons les différences, comme dirait Arnold et Willy. Sauf avec les fachos, bien sûr. Fraternité, sororité, écoutons-nous les uns les autres et distribuons des pains plutôt que d'écouter la TV, Internet ou je ne sais quel facteur diviseur. Comme dirait l'autre pour conclure, parce que la première est toujours la dernière fois, déguste chaque minute, vis un perpétuel terminus, comment faire quelques heures de 5 minutes. Aimez-vous les uns les autres. C'est le moment où vous faites semblant d'applaudir. Merci de m'avoir écouté. Là, tu fais semblant d'applaudir. Vas-y. Ah, merci. Voilà. Bon, allez, reprenons sur le sport. C'est parti. Le tir à l'arc, comment ça marche? Qui sait qui je suis, le tir à l'arc? Bientôt, un van Scooby-Doo pour faire le tour du monde, Shaima?
Ah bah, pourquoi pas?
Ça te plaît, un van Scooby-Doo?
Bah, ah bah, franchement, oui. Hein.
Ce serait fort.
Hein. Ouais. On voit en verre avec moi.
À vous, tu l'aurais tagué de ouf.
C'est vrai.
Scooby-Shy.
Ouais.
Le tir à charc, oui, bien sûr, le tir sur les requins, c'est interdit. Alors, le tir à l'arc, c'est l'un des plus vieux sports de l'histoire, né au paléolithique pour chasser. Il est devenu sport de précision où des millions, et vraiment des millions d'archers au monde, visent le centre d'une cible. Gouverné aujourd'hui par la World Archery à l'international et la Fédération Française de Tir à l'Arc dans l'Hexagone, la FFTIR, le tir à l'arc moderne mélange tradition mythologique, technologie et compétition internationale. Et rappelle que tirer une flèche, c'est d'abord maîtriser son souffle, son geste et son cœur de cible. Ça ferait bien sur LinkedIn, ça va?
Oui, je pense oui.
Je devrais le noter sur LinkedIn, d'accord? Okay. Le tir à l'arc, donc, c'est ce sport de précision. C'est un sport olympique qui existe dès 1900 jusqu'en 1908, puis disparaît et réapparaît en 1972. Il est toujours d'actualité. Pendant 10 000 ans au moins, le tir à l'arc est pratiqué pour chasser et faire la guerre. Vers 1500, l'arrivée de l'arquebuse, donc l'ancêtre du fusil si on préfère, commence à mettre au rebut l'arc. Et le tir à l'arc devient un loisir. L'une des premières compétitions se déroule même en 1583 avec 3000 participants en Angleterre pour faire un tournoi d'archerie. Alors évidemment, mythologie, je te cite Robin des Bois, le roi des voleurs, bien sûr. Nous avons aussi Guillaume Tell. Connaît. Mais on a aussi Artémis, la déesse de la chasse.
Ah oui, c'est vrai.
Elle a un arc, tout ça. Donc il y a vraiment une grande mythologie par rapport à l'arc. L'arc a suivi l'humanité depuis des millénaires. Mais d'un coup, effectivement, là, quand on parle de tir à l'arc en sport, tu vois, toi-même, t'as dit, oh, pas un sport que je pratique, ça me dit rien, tu vois. En même temps, est-ce que tu t'imagines, toi, aller dans un supermarché, faire tes courses avec un arc et des flèches pour chasser des paquets de frites?
Non, bah, ce serait marrant. Hein.
Bon, franchement, ça serait hilarant. Bougez pas, j'attrape cette tranche de dinde. Donc effectivement, moi j'ai fait un peu de tir à l'arc quand j'étais gamin en colonie de vacances. Effectivement, en France, on a de quoi faire. Il y a souvent des associations, des clubs, ce genre de choses. Donc c'est un loisir, mais il faut de l'espace. Donc,
bah, c'est ça.
Donc en milieu urbain.
C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je te disais, même si tu as envie de le faire, il faut prendre la voiture. Je pense que tu ne pourrais pas faire ça.
Ouais, tu peux pas.
En tout cas, Paris, intramuros, il faudrait. Non, c'est pas possible.
Ou alors, il faut que tu aies un grand jardin, tu vois. Et encore, moi, ce que je. T'as ton grand jardin, ok. Écoute, t'es en région parisienne, t'as ton pavillon, t'as ton grand jardin, t'as ta cible, d'accord. C'est pas le problème. Mais si ton enfant, il s'amuse à rater la cible et que la flèche, elle part flinguer le chat ou le chien du voisin.
Merci la responsabilité civile.
Voilà, je pense que c'est un peu dangereux. Parce qu'effectivement, ça reste des flèches. Voilà. Même si aujourd'hui, il y a aussi une course technologique, t'as l'arc à poulie, t'as plein de choses. T'as aussi énormément de disciplines de tir à l'arc que je ne connaissais pas. Tu vas voir, c'est un truc de ouf. Parce que toi, le tir à l'arc, à part les Jeux Olympiques, championnats du monde.
Non, j'en ai jamais. Bah, après, il y a des séries, il y a des films, mais c'est vrai que sinon, non. Je m'arrête à le classique avec la flèche et l'arc. Que tu me dises qu'il y ait d'autres disciplines dans son domaine.
Il y a d'autres disciplines. Prépare-toi. Parce que tu vas voir à quel point l'humain est inventif pour trouver des sports, ma chère. Tu vas voir. Donc du coup, le siège de la World Archery est à Lausanne, en Suisse. La Fédération Française de Tir à l'Arc, vous la connaissez, celle qui gère les clubs, les licences, bien sûr. Il y a aussi toute une petite galaxie de fédérations, comme je t'ai dit, et d'associations qui proposent du tir à l'arc. Donc la Fédération Sportive Culturelle de France, l'Union Française des œuvres laïques d'éducation physique, etc. T'en as plein. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous initier très souvent. Des fois, quand tu as des festivals, des petites fêtes de village, des kermesses, tu peux trouver un type comme ça qui te dit « Hey, tir à l'arc !» Excusez-moi, prendre pour Robin des Bois. Alors, attention, premier quiz chez vous, je pose la fameuse question. Prépare-toi, ma chère. Nous allons parler d'un record du monde. Okay. Ce record du monde, tout humain confondu, sur 70 mètres, 72 flèches, a été effectué le 25 juillet 2024 aux Jeux Olympiques d'été de 2024. Je te laisse deviner qui est la jeune femme qui a eu ce record.
Bah, j'imagine que c'est une Coréenne, vu qu'on parle de l'Asie. Oh,
Lim Si-yeon, bien sûr, 22 ans. Record du monde absolu, elle a fait 694 points sur 720 possibles.
600... Ah ouais, presque un
sans faute.
Ouais.
Et personne n'a fait ça, même chez les garçons, il n'y a pas ce record-là. Tu vois. Donc on est vraiment sur un record top tiers, rien à dire. Alors si vous posez la question, quand vous avez une très belle cible de tir à l'arc, vous avez le jaune, c'est l'extérieur, c'est entre 10 et 9 points. Par flèche, le rouge, 8 et 7 points, puis le bleu, 6 et 5 points, le noir, bien sûr, 4 et 3 points, et le blanc, qui est le petit rond, entre 2 et 1 point. Les cibles peuvent varier selon, évidemment, la distance où vous êtes. Donc vous avez des cibles de 40 cm de diamètre, 60, 80, ça dépend. Et en fait, c'est toujours lié en fait, à la distance à laquelle vous allez tirer vos flèches. Alors, nous avons aussi un sport qui s'appelle le tir en campagne. Ça, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, l'idée est simple. Discipline internationale qui se pratique sur terrain accidenté et découvert ou en sous-bois. Donc t'es dans la nature, t'es fou. Voilà. Parcours de 24 cibles, dont les distances sont 12 connues, 12 inconnues. C'est-à-dire que t'as 12 cibles où tu sais ce que tu vas tirer, t'en as 12, tu sais pas. Et tu cours comme ça. Et tu cherches les cibles et t'enchaînes. Déjà, un avis. C'est déjà plus fun que d'être sur place.
Oui, mais je pense que c'est plus compliqué parce que si tu dois courir, puis t'arrêter, reprendre ton souffle pour te concentrer sur une cible, c'est... c'est plus intense.
Eh bien, sache qu'il y a le ski arc. Tu fais du ski, et comme le biathlon, au lieu de tirer avec une carabine, tu tires à l'arc.
Je pense que je vais aller regarder des vidéos. Ça.
C'est fou, hein ouais. C'est pas fini, parce que vous dites « Ah, mais c'est quand même déjà pas mal ». Non, sachez qu'il existe la course arc. Vous courez, vous tirez, vous courez, vous courez. Et vous avez des parcours de 1 km. Donc c'est le plus rapide sur un kilomètre qui court, qui met les flèches au bon endroit et qui passe la ligne d'arrivée. Donc t'as vraiment tout un truc assez fou. Alors, bien sûr, le tir à l'arc est un sport mixte, et ça c'est bien, c'est très cool. Donc vous avez les divisions masculines et féminines, et vous avez ce qu'on appelle les trophées mixtes, donc des équipes, tout simplement, filles et garçons ensemble,
okay.
Ce qu'on a eu aux Jeux Olympiques, et qui vont gagner des médailles. Donc ça aussi c'est vraiment cool, donc, c'est un sport qui n'a pas attendu toutes les polémiques sur la mixité pour en faire, et ça c'est très cool. Ensuite, d'après toi, combien il y a de licenciés en France d'archerie ? Allez, t'inquiète, c'est pas grave, tout le monde se trompe. Chez vous, vous pouvez jouer, mesdames et messieurs. Vous pouvez mettre des chiffres, même à la régie, comme ça, en me disant 100, 200, 300, 400.
Allez, on va dire 500.
Eh bien, 500 personnes. Ouais, quand même, t'as pas confiance en nous. Il y a 84 665 licenciés, madame, dont 36% de femmes en France. 41 177 archers pratiquent en compétition.
Ah, ah oui.
Pro, semi-pro. Donc on a vraiment un petit vivier. Il y a 1614 clubs. Et il faut savoir qu'il y a une progression de quasiment 10% d'archers depuis les Jeux Olympiques. On était à 77, on est passé à 84 en un an.
Oui, mais ça a mis à la lumière grâce aux Jeux Olympiques.
Exactement, comme d'habitude. Et en attendant, le gouvernement nous a enlevé des fonds pour le sport. Alors, ensuite, les trophées mixtes, voilà. On a ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dont on peut parler qui est drôle ? Oui, le prix. D'après toi, le prix d'un arc. Allez. C'est le juste prix, vous jouez chez vous. Ah ah ah.
De bonne qualité. En...
Oui, bah, donnant une fourchette. Moi, je tenais la fourchette du moins cher au plus cher.
J'aurais dit entre 70 et on doit monter, à mon avis, à 300, 400, non ?
De 50 à 2000 euros.
Ah, voilà.
Parce que composite, carbone, etc., léger. Et puis après, tu sais, il faut les cibles et tout, les petits accessoires.
Oui, c'est vrai. Moi, j'étais vraiment que sur l'objet, alors que c'est quand même...
Ah bah maintenant, c'est un objet technologique. Toi, t'es resté sur l'arc en bois.
Oui.
Avoue, le Robin des Bois, il t'a induit en erreur. Là.
Oui, j'avoue que...
Guillaume Tell, la pomme sur la tête, tout ça, quoi. Alors, il faut savoir qu'une cible, si vous la mettez dans votre jardin, c'est entre 25 et 30 euros. Pour tout ce qui est accessoire, vous avez les gants, tu sais, l'avant-bras.
Oui.
Ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le carquois, les flèches se vendent par 3, entre 15 et 20 euros. Mais tous les accessoires, c'est à peu près 50-100 balles. La licence, elle est à 27 euros en loisir, 44 euros en pro, sans compter l'adhésion au club. Donc, ça fait un minimum par an de 160 euros. C'est accessible,
c'est...
en fait.
Oui, c'est très accessible.
Super accessible. Mais ça peut monter jusqu'à 2500 ou plus si vous prenez vraiment du gros matériel. Donc le plus cher, ce sera l'arc, évidemment, qui vous coûtera le plus cher. Sans compter les trucs sur mesure. Tu sais, les professionnels, ils font carrément des poignées sur mesure, le poids, etc. Donc, pour faire le Robin des Bois, on peut réfléchir. Se pratiquer dans le jardin, c'est possible si on ne tue pas le chat du voisin. Et si on veut tenter de chasser des pigeons à l'arc. Une autre discipline que j'aime beaucoup, qui s'appelle le... Prépare-toi, c'est la géniale. Le combat d'archers, le archery fighting. Donc, tu vois le paintball ?
Oui.
Tu prends des archers, tu prends des flèches en mousse, et vas-y, c'est parti.
Bah, ça fait moins mal que le paintball.
Exactement. Ah, quoi que je sais pas, parce que j'ai pas, bah, si pas fait taper une flèche. C'est un peu en mousse, ouais, c'est moins... Oui,
voilà, ça fait moins... ça fait moins mal.
Mais il y a des batailles en milieu urbain, de type qui court avec des carquois, et c'est le feu.
Bah, en vrai, si tu es protégé au niveau du visage,
ouais,
je pense que c'est pas dangereux.
Oui, mais il y a les protections adéquates, bien vu. Tu as complètement raison. Et aussi, évidemment, sachez que l'archerie est devenue très populaire grâce à Hunger Games.
Bah oui, ah, avec...
Oui, oui. Le rossignol Jennifer, chantant. Voilà. Non, l'oiseau moqueur, pardon.
L'oiseau moqueur.
Ouais. L'oiseau moqueur. Alors... On va partir sur de la musique. On va s'écouter de la musique créée et pensée pour les fêtes de fin d'année. Surtout si vous êtes un enfant, blond, raillé par ses frères et sœurs et vos cousins, cousines, oublié par vos parents avec toute sa famille, alors qu'ils sont partis fêter Noël à Paris. Vous restez seul à la maison jusque le réveillon dans une banlieue de Chicago. Et vous devez combattre avec malice et vos armes d'enfant deux malfrats venant cambrioler la baraque. Vous devez deviner quel est ce film de Noël sorti en décembre 90. Et la musique suivante vous aidera un peu. Sur ce... Ça va, ça se passe bien ?
Ça va.
Musique maestro, s'il vous plaît.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Thank you.
Et bonjour à nouveau auditrice auditeur, je suis toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Allegre FM 93.1, vous êtes bien dans l'émission championne qui traite de sport féminin. On vient d'écouter un titre de Noël légendaire, cela date de décembre 1990. Carol of the Bells, de John Williams, mesdames et messieurs, pas n'importe qui. Avez-vous deviné le film? Et je vais demander à Shaima si elle a trouvé le film dont est tiré ce morceau.
Oui, c'est Maman, j'ai raté l'avion.
Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. La régie l'avait? Oui, la régie l'avait. Oh là là, ça, c'est ma régie, ça. Ça, je kiffe. Alors, au cas où vous n'auriez pas trouvé, je vous donne quand même des indices. Effectivement, c'est bien Maman, j'ai raté l'avion ou Home Alone en VO, sorti en décembre 1990 avec Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McAllister, doublé en VF par feu Boris Roata, qui était le fils du commissaire Moulin, histoire vraie. Ceci dit, je note un truc à tous les Kevin. Eh bien, sachez qu'on vous fait croire depuis des années qu'on vous a appelé comme ça à cause de Kevin Costner 1111, à cause de Kevin McAllister, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Regardez ce film, c'est autobiographique. Face à lui, deux cambrioleurs nuls, les casseurs flotteurs. Et non, ce n'est pas Orelsan et Gringe. C'est bien Harry Lime joué par Joe Pesci, plus connu dans le rôle de mafieux dans Casino les Affranchis, ou même en comique dans L'Arme Fatale 2, 3 et 4, Léo Getz pour le grand public, doublé par Patrice Melenek. Et Daniel Stern qui joue Melvin Merchant, le grand débile doublé par Michel Mella. La réalisation, et on arrive sur ceux qui sont été peut-être trop jeunes pour l'avoir vu, Chris Columbus, à qui vous devez Harry Potter 1 et 2, avec une musique de John Williams pour Maman, j'ai raté l'avion, mais une musique de John Williams pour Harry Potter aussi. La boucle est bouclée, tout est lié. Mais reprenons. Aujourd'hui, mon nom est le chasseur-cueilleur de bibimbap d'eau bœuf du 75, bien sûr, et on va demander à la gourmette de l'Est championne de Fox Street 2022, 2023 et 2025, qui a remis son titre en jeu cette année, comment ça va?
Ça va super.
Bien.
Et toi?
Tranquille. Dédicace à la régie comme d'habitude. Diego Armando Maradona. Renault. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je me trompe dans les noms. Bon, la régie est là et je vous embrasse. Ensuite, c'est parti, on va parler de la légende de la semaine, Lim Si Yeon. Déjà, avez-vous, et toi-même, avais-tu déjà entendu parler de cet athlète?
Non, pas du tout, jamais.
Alors qu'elle a fait un record du monde le premier jour d'ouverture des JO, c'était le concours tir à l'arc. Donc elle a pété le score, comme on l'a dit, 694 points sur 720 à 70 mètres 72 flèches. Soulignons que c'était avec un arc classique. Soulignons qu'aucun homme n'a pu l'abattre sur ce même terrain. Et que, en parlant de record du monde sud-coréen, que tu connais bien, en équipe, 3 records du monde sur 5 sont sud-coréens. Chez les femmes, 10 sur 14. En équipe chez les femmes, 4 sur 5, c'est les sud-coréennes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et chez les hommes, c'est 8 sur 14. Donc les filles sont largement plus fortes au tir à l'arc que les hommes dans ce sport. La puissance du bibibap au bœuf, me dit-on dans l'oreillette. Alors, déjà, première question. Toi qui es parti en Corée, le tir à l'arc, on en voit partout ou c'est vraiment dans un microcosme ou c'est vraiment dans leur... les études en fait, ils ont vraiment une grosse tradition, il y a beaucoup d'argent et de subventions pour ce sport-là, mais c'est peut-être pas visible en fait.
Moi franchement j'en ai pas du tout entendu parler. Autant d'autres sports, oui, ils sont connus, il y a de la publicité, il y a tout le monde qui s'empresse, mais le tir à l'arc, je pense que ça doit être réservé peut-être à un certain public, à une certaine élite aussi.
Oui, c'est vrai qu'ils sont aussi classifiés par... C'est vrai, il faut en parler de ça. Ils sont classifiés par niveau d'études et de résultats qui leur donnent aussi leur vie sociale derrière.
C'est ça.
Le bac chez eux, pour faire une parenthèse, le jour du bac, tout est fait pour qu'ils puissent arriver à l'heure et jamais en retard. Les transports sont pour eux, les gens prennent des jours de congé ou sont en télétravail pour ne pas bloquer la route. Il y a même eu des étudiants qui ont attaqué l'État et ils ont gagné parce qu'ils sont arrivés en retard à leur épreuve du bac et du coup ils n'ont pas eu de bonnes notes. Ils ont attaqué l'État et ils ont été remboursés par l'État. Puisque ce résultat du bac vous donne en fait le type de travail que vous allez pouvoir avoir, et ce type de travail va vous suivre toute votre vie parce que ça va être votre niveau de vie en fait, tout simplement.
C'est ça.
Et votre début de carrière. Donc c'est ça déjà. C'est un truc de fou. Là où nous, on est en mode « Ouais, le bac !»« Ouais, le bac !»
Mais non, eux, ils sont très études. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais là-bas, c'est que quand t'es enfant en Corée et que t'es à la maternelle, le matin, t'es en intérieur, l'après-midi, t'es en extérieur, ou inversement, en fonction des provinces dans lesquelles tu te trouves. Et on t'apprend à cuisiner, on t'apprend à faire le ménage à l'école. Et dès le primaire, c'est les élèves qui nettoient l'établissement.
Purée.
Donc ça t'apprend aussi la discipline, parce que si tu fous le bordel, c'est toi qui nettoie.
Oui, il y a vraiment une responsabilité. T'as aussi, on va faire le portrait de Lim Si Yeon, vous inquiétez pas, mais t'as aussi le côté aîné qui est très important chez eux. Le respect des aînés, c'est vraiment hyper, hyper important.
Le grand frère et le papa se disent ou pas, pour montrer à quel point il y a quand même un respect à l'égard du grand frère dans la famille.
Ça, c'est... Oh, purée, c'est un truc qu'on n'a plus, non ? Alors qu'on pourrait s'adapter. Bref, Lim Si-yeon, alors vous vous posez la question, elle est née le 13 juin 2003. C'est une archère sud-coréenne et effectivement, elle avait seulement 22 ans. Ouais, 22 ans le 25 juillet... Attends, je dis pas de bêtises. Non, 21 ans, pardon. 21 ans le 25 juillet 2024 où elle bat le record du monde. Elle a commencé le tir à l'arc en troisième année de primaire. Elle était étudiante à l'Université nationale du sport de Corée. Ils ont... Merci. Comme nous, l'INSAP, si je dis pas de bêtises, mais c'est plus fort chez eux, vraiment, l'Université nationale de sport de Corée, c'est un délire. Déjà, en plus, c'est avec des sports comme la lutte, le taekwondo, vraiment des sports qui sont typiques chez eux. Pour sa première participation au championnat du monde en 2023 à Berlin, elle est éliminée en quart de finale en individuel et en huitième par équipe. Elle remporte en revanche la médaille d'or par équipe mixte avec Kim Woo-jin. Quelques semaines plus tard, elle remporte trois médailles d'or aux Jeux Asiatiques de 2022. Ça, c'est un délire. Et il faut savoir que chez nous, en France, bien sûr, elle a été triple médaille d'or. Elle est partie avec trois médailles d'or.
Ah ouais.
Ouais, elle n'a pas rigolé. Elle a un palmarès, alors que c'est que le début. Hein. Elle a épreuve féminine individuelle où elle a fait son record du monde, médaille d'or. Épreuve féminine par équipe, médaille d'or. Épreuve mixte par équipe, médaille d'or. Voilà.
Elle a tout raflé.
Elle a tout raflé. Et elle est d'une humilité exceptionnelle aussi, vraiment, pour le coup. J'ai rarement vu ça. Alors, entraînement intensif, comme beaucoup d'archers sud-coréens, elle s'entraîne des heures par jour avec des programmes très stricts sur la répétition des tirs, le travail mental. Ils ont aussi le bien-être mental et des coachs sportifs mentaux. Vraiment, c'est eux. Dès 2018, ils en avaient un. Hein.
Les pionniers.
Ouais, pour le coup. Bon, après, en même temps, comment c'est très concurrentiel chez eux, je comprends. Mais c'est fou d'y avoir pensé. Conditionnement physique. Tir à l'arc en Corée est très institutionnalisé. Il y a des écoles sportives, il y a le soutien de la fédération, parce que c'est très traditionnel. Ça existe depuis des millénaires encore chez eux. Et c'est quelque chose qui est ancré dans la tradition. Son record du monde au JO lui a donné une visibilité mondiale importante. Elle devient, aux yeux des médias et du public, un symbole de la nouvelle génération de champions d'archerie sud-coréenne. Je vous rappelle que tous les records du monde sont quasiment sud-coréens. Donc elle parle là-dessus. Et c'est une légende en devenir, et ça, c'est assez fou quand même. Bon, déjà, juste là...
Ah bah, franchement, elle fait la fierté de son pays. Hein.
Bah, c'est un délire. Mais du coup, toi qui étais, je sais que c'est le cas dans beaucoup de séries et autres, un titre olympique, c'est extrêmement respecté là-bas. Hein.
Bah, j'imagine.
C'est un truc de fou.
C'est vrai que moi, j'ai pas vu dans les publicités les sportifs, on est plus dans la K-beauty ou les K-pop. Mais je pense que ouais, quand elle a dû remporter, ils ont dû faire un truc de ouf quand même. Quand elle a une standing ovation, tu sais, quand elle est descendue de l'avion, comme ils savent les faire, hein, parce qu'ils sont très forts sur ça.
Ouais, ils sont extrêmement patriotes sur les records. En fait, le truc qui n'est pas comme chez nous, parce qu'en fait l'Asie, l'Occident est différent sur certaines mœurs, c'est celle-là, la mémoire, j'en parlais dans mon édito tout à l'heure, bah eux en fait quand tu gagnes un titre, ça te suit toute ta vie. Quand on a fait le volleyball, on a fait l'équipe nationale du Japon féminine, qui est encore aujourd'hui dans les mémoires au Japon, alors qu'ils ont gagné en 1964.
Ah oui.
Donc chez eux, quand tu gagnes quelque chose comme ça, que tu représentes ton pays, c'est légendaire. Nous on a quelques légendes auxquelles on s'accroche, mais en vrai... On ne connaît pas tous les titres olympiques de tous les Français et Françaises qui ont gagné à travers le temps, alors qu'il y a énormément de titres, tu vois.
C'est l'esprit patriotique. Hein.
Ouais, ils ont vraiment un truc très particulier de rayonnement international qu'on n'a pas forcément. Pour la méthode coréenne, j'en parlais. Un archer débutant. Les 6 premiers mois sont consacrés à l'apprentissage de la posture, des placements avec un élastique, puis un arc en bois. Pendant cette période, l'archer s'entraîne jusqu'à 3 à 4 heures par jour, tous les jours, sans jamais lâcher une flèche. Voilà. Pendant 6 mois, il n'y a pas de flèche. Juste, tu t'entraînes. C'est quelque chose d'assez fort, tu vois. Ensuite, durant les 10 premières années de sa formation, un archer effectue un footing matinal quotidien à partir de 6h du matin, puis s'entraîne tous les jours entre 3 et 8 heures. Il tire en moyenne entre 300 et 600 flèches par jour, jusqu'à 1000 dans les compétitions. À titre de comparaison, un collégien français s'entraîne en pôle espoir entre 150 et 200 flèches par jour. Je répète, eux, c'est 300 et 600. Nous, on est sur 150 et 200. Pour atteindre de tels volumes, les archers tirent des volées de 12 flèches et courent aussi pour récupérer leurs flèches. Ils sont ainsi capables de tirer à 50-70 mètres, d'atteindre 100 flèches par heure. Voilà. C'est la méthode coréenne, qui d'ailleurs a été exportée dans d'autres pays pour essayer d'avoir des bons résultats. Donc on est vraiment sur quelque chose de strict.
Bah, en tout cas, ça marche hein, quand on voit leurs résultats.
Et d'ailleurs, ils disaient ils aiment beaucoup faire ça aux jeunes sud-coréens parce que ça leur apprend la patience.
Oui, j'allais te dire, c'est à discipline, concentration.
t'es vraiment, tu vois, concentré, de chez concentré, t'es là. C'est... Moi, pendant 6 mois, si je refais une flèche, j'arrête. On n'est vraiment pas câblé pareil, tu vois. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, effectivement, elle a, d'ailleurs, elle a fait des déclarations quand elle a gagné. Alors, c'était assez drôle parce qu'elle a dit que elle était venue pour s'amuser, qu'elle pensait pas gagner.
Ah.
Déjà, c'est assez fort. Qu'en fait, elle avait bossé, mais qu'en fait, elle s'attendait pas à ce résultat. Donc déjà, ça, c'est assez... Il y a une certaine humilité dans ses déclarations, en fait. Donc, ça, je trouvais ça assez touchant. Parce que, généralement, quand tu compares le mode de pensée américain, « I am the winner, I am the one », tu vois, « Je suis toujours le meilleur, moi, j'écrase tout le monde, ah, je prends qui tu veux », tu vois. Et d'avoir des gens qui sont triple médaillé d'or à 21 ans qui disent « Moi, je suis venu pour m'amuser
». Elle a raison, je pense que c'est content. Le bon état d'esprit. Hein. La preuve, elle a réussi à tout rafler. Et de toute façon, elle ne pouvait pas aller... on va dire convaincue, alors qu'elle voilà, elle avait rien jusqu'à présent. Enfin, elle avait eu la victoire en Allemagne, mais elle rentrait dans le game. Donc, vaut mieux être humble, quitte à après faire du bruit, que faire du bruit et être nul à la fin.
C'est ça. Et puis, en plus, comme tu as dit, effectivement, elle a dit « je suis fier pour mon pays, en fait ». Et ça, pareil, c'est quelque chose d'assez récurrent. Bon, après, la plupart des sportifs professionnels, généralement, quand ils jouent pour leur pays, ils placent cette phrase, on va pas se mentir. Et pour la santé mentale, depuis 2018, il y a effectivement des psychologues et des coachs sportifs qui ne font que ça pour les équipes olympiques et ou équipes mondiaux sud-coréennes, notamment pour le tir à l'arc, mais pas que. Et je cite, parce que j'ai eu une interview d'un des coachs que je suis parti chercher à l'article, « Je leur apporte des conseils, j'aide le plus souvent les archers pour des sentiments d'insécurité, d'anxiété, de manque de confiance, de pression aussi. » Parce que eux, quand ils jouent pour leur pays, ils sont vraiment en dance, tu vois. Il y a toute la famille qui regarde, mais c'est pire, tu as tout le pays qui regarde. Quand il arrive qu'un archer n'ait pas confiance dans un aspect de son geste ou qu'il ne soit pas au mieux dans sa condition physique, on tend à avoir aussi des répercussions psychologiques. On règle les problèmes ensemble, beaucoup de discussions. Et ça aussi, c'est dès 2018, tu vois, nous, la santé mentale dans le sport, c'est récent depuis quelques années. Je dirais 4 ans, 5 ans. Pour le grand public, en tout cas. Mais eux, dès 2018, ils ont déjà des trucs dessus, tu vois.
Oui, mais après, je pense que c'est pas le même mode de fonctionnement, puisqu'ils ont mis quand même une pression, tu vois. Si tu es des enfants, tu vois, c'est pas le même mode de pensée, c'est pas la même...
Non.
C'est pas la même stratégie, c'est pas le même entraînement. Mais c'est bien d'y l'avoir pensé, justement, pour prévenir ce volet-là qui n'est pas forcément bien anticipé. Et je pense que ça permet justement de faire en sorte que les gens sont tellement en confiance qu'ils arrivent à avoir les résultats escomptés.
C'est ça, de ne pas s'effondrer sur la pression, de se sentir vraiment soutenu. Et là, on parle vraiment de risques psychosociaux.
Oui.
Nous sommes d'accord.
Oui.
Chose dont on parle dans la vraie vie. Alors, peux-tu nous résumer qu'est-ce que sont les risques psychosociaux, s'il te plaît?
C'est tous les facteurs de risque qui peuvent engendrer un problème pour les personnes. On en pense notamment quand tu es au travail. Donc, c'est tous les facteurs qui vont faire qu'une situation va devenir compliquée. Par exemple, le stress, l'anxiété, le problème quand tu ne sais pas la sécurité de l'emploi.
Mm-hmm.
Les collaborateurs sont pas bien et derrière ça crée un cercle un peu vicieux puisque les gens sont pas bien, donc s'ils sont pas bien ils sont en arrêt maladie, s'ils sont en arrêt maladie tu perds ta productivité. Alors que inversement si tu es dans la prévention, que tu fais attention et que tu détectes les risques, bah ton entreprise elle est bien puisque tu fais attention à tes collaborateurs, donc eux comme ils sont contents, bah ils travaillent bien et après là derrière tu as les résultats.
Et cercle vertueux, je ne dirais pas mieux. Effectivement dans le sport c'est comme tu as dit, c'est exactement la même chose. Votre sportif il est là, effectivement vous avez misé de la formation, vous avez un espoir de médaille, de rayonnement international, mais effectivement il peut s'effondrer par la pression du titre, par la pression de simplement son physique à ce moment-là, est-ce qu'il se sent bien, etc. Donc avoir un coach qui prémunit effectivement ces risques-là, qui discute avec lui, qui désamorce la situation, fait que votre athlète ne va pas forcément craquer à ce moment-là. Ouais. C'est le cas de Léon Marchand. Léon Marchand aussi est un coach sportif depuis quelques années.
Ah ben, en même temps, il a quand même une grosse pression. Hein. Je trouve que les gens... il a gagné beaucoup de médailles et les gens étaient là... tu peux pas perdre. Bah non. Si, il peut perdre.
Pourquoi je parle de Léon Marchand, même si c'est un garçon, c'est l'âge. En fait, l'âge me fait penser à...
Oui, il est jeune.
Bah, Lim Sisayon, c'était 21 ans, maintenant il a 22. Léon Marchand, pareil, une vingtaine d'années, 22, quelque chose comme ça. Donc quand t'es jeune, en plus, la pression est encore plus forte. Tu vois.
C'est ça.
Et tu peux préjuger aussi ta forme physique, tout simplement, de te dire ouais, « je peux y arriver », alors qu'en fait, pas du tout.
Bah, surtout, quand tu dis que d'autres personnes qui sont plus âgées, eux, ont mis du temps à avoir le résultat, tu te dis « bon, est-ce que je peux réussir à au moins envisager d'arriver à ce même résultat à mon simple âge ?» Mbappé, par exemple.
Exactement, tout à fait. Bah, c'est le cas après... Oui, Mbappé est un bon exemple, en fait. Oui, je suis assez d'accord. Même si, après, tu vas avoir plein d'exemples féminins dont on a parlé, tu vois. Quand tu as parlé de Catherine Lunde, notre handballeuse, qui devait avoir une sacrée pression, vu la longévité de sa carrière.
Ah bah, c'est ça.
Donc, c'est vrai que c'est pas faux. Je suis assez d'accord. Eh bien, effectivement, l'aspect psychologique du tir à l'arc est invisible, mais essentiel, particulièrement lorsqu'il s'agit de maintenir les standards d'élite du sport dans un monde moderne. Et c'est le cas en Corée du Sud où c'est très attendu. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, nous allons écouter un petit peu de musique. Alors, vous aimez danser et vous aimez la K-pop. Oui, la pop coréenne. Musique maestro. C'est parti, s'il vous plaît, à votre signal.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a bass boom. I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Yeah, this beach treated like money.
Et bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis toujours Cad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission Championne. On venait d'écouter Dynamite ou Dynamite hein, de BTS ou BTS, comme le brevet technologique supérieur bien sûr. Le groupe le plus connu de la Corée du Sud, il y a même un feat avec Coldplay My Universe qui existe. J'ai choisi ce morceau pour que vous rendiez compte de la popularité et donc du soft power sud-coréen aujourd'hui. Car oui, vous connaissez tous ce morceau, vous l'avez tous entendu dans une pub, dans une émission, dans quelque chose, vous l'avez peut-être dansé dessus. Et pour m'accompagner, j'ai toujours Shy, jamais de briquet pour la troisième partie, c'est très important. La régie qui est en place, bien sûr, avec la grosse team qui est là. Le A et le R, on les appelle comme ça. Ils sont là. Alors, qu'est-ce que je veux dire comme bêtise ? Maintenant, on va parler de manière libre de l'Asie et le sport, tradition, ambition. Mais déjà, la K-pop, comment ça se passe, Chai ? Vas-y, dis-moi. C'est quoi la K-pop déjà ?
La K-pop, c'est le style de chanson en Corée.
Ouais.
Qui représente la plupart des musiques aujourd'hui et qui a connu une explosion après le Covid. Mmh. Bon, moi, j'en écoute depuis très très longtemps.
Donne l'année.
Depuis, moi, j'écoute ça depuis 2010.
Wow. Ah ouais, je
kiffe et les amis autour de moi aussi aiment beaucoup la Corée. Après, c'est des méthodes de travail compliquées, hein, la K-pop. Hein.
Oui.
On est à un niveau, en fait, la Corée et l'Asie en général, ils ont un niveau d'excellence très très élevé.
Ouais, d'exigence de ouf. Hein.
Et je pense notamment à la formation du groupe Cat Size, qui connaît un succès fulgurant sur TikTok. Et ils ont utilisé justement les méthodes coréennes où c'est de l'entraînement. Bah, tu te lèves à 6 heures, tu fais du sport, là tu retiens la chorégraphie, c'est au millimètre près, tu n'as pas le droit de te tromper. Et justement, sur Netflix, quand il y a eu la création du groupe Cat Size, c'était des femmes qui étaient venues de tous les horizons.
Oui, c'est vrai, c'était pas sur une télé-réalité qu'ils ont fait ça, ils ont monté un girls band en fait.
C'est ça.
Oui, ok, c'est bon.
Et tu avais toutes les personnes qui sont venues, et donc tu avais cours de chant, cours de danse, cours de sport, bah, elles n'ont pas tenu, et à la fin on a pris les meilleures, et aujourd'hui beaucoup de gens dénoncent quand même les méthodes qui ont été employées, mais quand on voit le succès qu'il y a derrière, ça interroge, et se dire, ok, ils vont connaître un succès fulgurant, mais c'est pas simple, hein, parce que tu sais, en Corée, quand tu as des scandales, ça te suit à vie, et quand t'es blacklisté, hein.
Ouais, c'est à vie, ça.
Tu montes très haut, c'est très très dur, et on le voit avec toutes les stars de K-pop qui, lorsqu'elles sont blacklistées, elles font plus de films, plus rien, tu peux plus revenir dans l'industrie.
Ouais.
En fait, une fois que t'es blacklisté de partout, et c'est très rare que tu arrives à remonter la pente.
Eh bien, tu fais bien de le souligner, puisqu'effectivement, je suis quand même d'accord avec toi pour le fait que les méthodes sont quasiment militaires.
C'est ça.
Voilà. Et qu'effectivement, il y a même une... J'ai vu une image il n'y a pas longtemps, il y en a une qui s'est carrément évanouie sur scène pendant un concert, parce qu'elle était au bout de sa vie.
Oui.
Et qu'effectivement, la K-pop, donc la Korean pop, qui est notre variété à nous, et qui a été popularisée en France grâce à Gangnam Style.
Oui, il y a quand même une statue de lui à Séoul. Et les touristes viennent tous au DDP, à la station de métro
Gangnam
DDP.
Style.
Voilà. Faut pas croire, hein. Nous on le voit plus, mais en Corée c'est un phénomène, ce mec.
J'ai vu, quand il y a des concerts, on le voit encore.
Ah, mais il y a tout le monde, et c'est lui quand même qui a réussi à populariser justement la K-pop. Et qu'il a amené au rang mondial parce qu'il a créé son hit là, et tout le monde l'a suivi. Et vraiment, c'est le truc hyper touristique. Hein. Tu vas à Séoul, tu es à côté de sa statue. C'est pas lui, c'est juste ses mains avec le signe. Et le truc, il est immense.
Je suis tellement pas étonné. Alors du coup, mesdames et messieurs, vous qui êtes au bout de ce micro, au bout de chaîne, et qui entendez toutes nos bêtises, mais aussi nos informations importantes, je vais vous faire un petit jeu et on va jouer ensemble. Ensemble, chacun son tour, d'accord ? Vous allez imaginer l'Asie, voilà, donc de la Russie en passant par l'Inde et bien sûr tout le continent asiatique, donc vous pouvez prendre le Japon, la Corée, les Philippines, etc. Et maintenant, vous vous dites, tous les jours, vous utilisez, évidemment, et vous êtes familier de la pop culture asiatique et aussi de tout ce qui va être marque. T'es prête ?
Oui,
je commence.
Vas-y.
Samsung.
J'aurais dit japonais.
Ah, c'est sud-coréen, Samsung.
Oh.
Non, tu dois me citer une marque asiatique.
Ah,
j'en ai
compris.
Un milliard, moi.
J'avais pas compris.
Bah, j'ai vu ça. Je me suis mal exprimé en même temps. Si je te... Samsung.
Une marque sud-coréenne. Ouais. Suzuki.
Ah, bien joué. Alors du coup, dans ces cas-là, je te dis Sony, parce que tout le monde oublie, mais c'est japonais.
C'est japonais, Sony.
Bien sûr.
Huawei.
Bien vu. Uniqlo.
Uniqlo, c'est asiatique.
C'est japonais.
Oh, ouais. Tu m'apprends un truc. Hyundai.
Bien vu. On a aussi Nintendo, bien sûr.
Ah bah oui.
Ah oui, si vous aimez Mario, c'est japonais aussi. Alors, je suis pro-japonais apparemment, mais je vous assure, il y a plein de trucs. Tu peux envoyer aussi des groupes, hein, c'est pas un problème.
Ah bah, il y a Blackpink, hein.
Blackpink, évidemment. Bah moi, je te réponds Squid Game, évidemment, la série sur Netflix.
Alice in Borderland.
Oh, bien joué, japonais. J'ai bien aimé cette série. On peut partir aussi sur Dernier Train pour Busan.
Ah oui, bah après, je vais partir dans les mangas. Hein. On va jamais s'arrêter.
Tu m'en mets un dernier, j'en mets un dernier.
Bah, Naruto.
Naruto, bien sûr. Eh bah, moi, je te dis Bollywood.
Ah,
Ah bah oui, c'est l'Inde, et l'Inde c'est l'Asie. Oui. Donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses qui sont tous les jours avec vous, que ce soit Miniso, Toyota, Lexus, les bibimbap au bœuf, les sushis, les yakitori, les films comme Parasite, qui a été oscarisé carrément, de la télé-réalité comme La Marque du Diable, ou encore Happiness, une super série sur les zombies sud-coréennes que j'ai adorée, qui était géniale, je vous la conseille. Donc, je suis sûr que là, si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que dans votre quotidien, l'Asie fait partie de votre vie. Et oui, on le vit bien d'ailleurs, ils sont là, il n'y a pas de souci. Et la question du sport revient entre la tradition, le patriotisme et représentation nationale, ou le sport santé quotidienne. Donc effectivement, on vient de parler du tir à l'arc, c'est pratiqué en Corée depuis le 2e siècle. Imaginez, les archers étaient des figures de prestige des classes militaires. Aujourd'hui, c'est le sport le plus traditionnel du pays, mettant discipline, respect des anciens, esthétique du geste. L'école coréenne installe des jeunes archers dès l'enfance dans des programmes sportifs très encadrés. La fédération et les clubs sont financés par l'État et des entreprises comme Samsung, Hyundai, qui mettent l'argent. Le nouveau aussi, c'est coréen. Le tir à l'arc est devenu un symbole culturel, raffinement, excellence, continuité historique. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des sports qui sont ancrés dans leur culture.
Oui.
C'est comme si nous, demain, la baguette, devenez un sport. Faire les vignes, devenez un sport. Tu vois, c'est nous, tu vois. Le fromage, un sport. Tu vois. On a vraiment un truc culturel par rapport au sport qui est très grand. Après, bon, nous, on a l'escrime, entre guillemets, mais c'est plus niche. Mais voilà. Après, effectivement, il y a vraiment ce côté où tu relis les traditions de ton pays avec un sport. Et le sport ne devient plus juste un sport, il devient une représentation nationale. Et comme le sumo dont on a parlé il n'y a pas longtemps en émission, qui lui représente carrément le shintoïsme, donc il y a un côté très divin.
Oui.
Les lutteurs de sumo, c'est carrément des demi-dieux qui montent sur le ring pour s'affronter, tu vois. Donc tu as un côté qu'on a en Asie, une représentation, une iconisation en fait, qu'on pourrait dire nous en Occident, qu'on n'a pas forcément dans nos sports, tu vois. Et quand tu allais là-bas, je pense que tu as vu des sports que je n'ai pas cités, comme le baseball.
Oui.
Parle-moi un peu du baseball là-bas.
Bah, c'est vraiment un sport, c'est l'un des sports les plus populaires. Après, et juste derrière, il y a le football. Les joueurs de baseball sont hyper connus, reconnus. Et il y a, tu sais, la caméra.
Oui, la love cam.
La love cam. Et ils ont tendance là-bas, parce qu'ils sont très marrants, à filmer les femmes des joueurs, et il faut voir parce qu'ils sont très timides, et dès que les hommes voient leurs femmes, ils se cachent, et tu vois les femmes qui dansent pour montrer le soutien à leur conjoint, et t'as des pom-pom girls.
Ah, ils ont des pom-pom girls
là-bas.
Ils ont
des pom-pom girls, ouais.
Ouais, purée. Bah tu vois, moi je savais que le baseball était populaire au Japon, mais je savais pas pour la Corée.
Ah non, et c'est hyper populaire, et généralement c'est une expérience que tu dois faire quand tu fais le touriste là-bas.
Ah oui, ça
tu
fait
vois, c'est comme
du...
quand tu vas aux États-Unis, tu vas voir un match de basket.
Mmh.
Ah bah c'est la même chose.
Mais non.
Si, si.
Je savais pas que c'était à ce point, tu vois.
Ah non, c'est un vrai truc. Hein.
Ouais, genre stade rempli, animation.
Exactement.
Et tout, quoi. Purée, je savais pas du tout, tu vois, j'aurais pas pensé. Donc ça, évidemment, vous avez derrière... Le patriotisme, ça on peut pas rater. Hein. L'Asie adopte un rapport beaucoup plus nationaliste au sport que nous, Européens ou États-Unis ou même Occidentaux. Par exemple, en Corée du Sud, le pays qui est construit autour du sport comme outil d'orgueil national, surtout après la guerre de Corée, parce que les gens oublient, mais il y a la Corée du Nord,
oui,
pas sympa, et la Corée du Sud, un peu plus libre, on va dire. Et du coup, le fait que la Corée du Sud doive avoir ce soft power, comme j'ai dit, et l'Asie en a. Alors le soft power, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? C'est comment vous allez... faire parler de votre pays en bien, vous donner une bonne image, mais pas à travers une conquête militaire et violente, mais à travers des objets culturels. Par exemple, on peut dire que les États-Unis avec Hollywood,
oui,
le McDonald's, les burgers, c'est le soft power américain. L'Asie, on en a parlé, quand on dit Nintendo, PlayStation, Sony, Uniqlo, voilà, c'est leur côté. Après, il y a des dérives comme Chine, mais ça, on en parlera un autre jour. Et donc, effectivement, il y a un engouement assez fou. Par exemple, lors de la victoire en patinage artistique de Kim Yuna en 2010 sud-coréenne, il y avait 70% de la population qui regardait la finale.
Ah oui.
Et en 1964, pour les Jeux Olympiques, comme j'ai dit, l'équipe des Japonaises, le pays s'est arrêté. Voilà.
Oui,
mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans les rues, c'était tous devant leur téloche. C'est un délire, c'est-à-dire que le pays s'est arrêté pour eux. C'est un truc aujourd'hui qui serait invraisemblable en France, tu vois. C'est-à-dire que là, je te dis, je ne sais pas, prenons une... cite-moi une française en sport qui, bah voilà, l'équipe féminine de foot, bah, prenons le sport le plus populaire français, l'équipe féminine de foot est en finale de Coupe du Monde. Je suis pas sûr que la
je suis même pas sûr que les gens soient au courant. on va être honnête, hein. Quand la France, les hommes, ils ont été en Coupe du Monde, le monde s'est arrêté.
Alors, c'est arrêté.
La France.
Ouais, dire. J'avoue.
La France, elle... non, oui. Faut
2018,
dire ce qu'il
est. Tu parles de 2018.
2018. Oui. Et pareil, oui. Quand il y a eu la Coupe du Monde d'avant.
98.
98.
Non, moi j'y étais, c'est pas arrêté. C'était juste. C'est le après. C'est après la victoire qu'il s'est passé quelque chose en 98. Mais en 2018, c'est vrai que pendant la finale, il n'y avait pas beaucoup de gens dehors. Ouais, je suis
franchement, même pour féliciter les Bleus,
oui,
y avait un monde énorme dans les rues.
Non, t'as complètement raison là-dessus. D'accord, je te l'accorde. Alors, évidemment, il y a des investissements qui sont faits par des pays. Par exemple, lors des JO de Pékin en 2008, ça a représenté un investissement de 40 milliards de dollars pour symboliser la montée en puissance du pays. C'est-à-dire que vraiment, Beijing, donc Pékin en 2008, ils ont mis plus d'argent que n'importe quel pays pour montrer qu'ils sont là, avec les infrastructures et tout. Il y a vraiment une envie de démontrer qu'ils sont présents. En Chine, le sport est un instrument politique revendiqué, politique de formation des jeunes, centre d'entraînement d'État ultra contrôlé. L'objectif affiché, la domination olympique. Eux, ils l'ont dit. Alors, oui. C'est ça qui est bien avec les Chinois. Dans le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, ils le disent. Nous, on veut être les meilleurs. On va mettre des milliards et on va rouler sur tout le monde. Ce qui est très différent, tu vois, du rapport que les Japonais ou les Sud-Coréens, ils ont, tu vois, je sais pas, il y a vraiment, tu sais, ils sont le même continent, mais c'est pas pareil, en vrai, je trouve.
Ils sont dans l'esprit de conquête, hein, les Chinois.
Ouais, complètement.
Et sais, quand il y avait la préparation pour les JO, les personnes n'ont pas arrêté de comparer notre cérémonie à la leur. Hein.
Ah ouais.
Et on s'est fait terminer sur les réseaux. Ah ouais, mais la Chine, vous avez vu le nombre de personnes qu'ils ont mis pour la cérémonie, ce qui était très beau, hein, parce que leur cérémonie d'ouverture, t'avais tous les danseurs synchro, et je sais pas combien ils étaient, mais c'était énorme. Et vraiment, au millimètre près, quand ils ont fait la cérémonie, c'était rien à voir. Le niveau, il était là. Hein.
Mais c'est ouf, parce que tu vois, moi, ça m'a pas du tout marqué, là.
Ah ouais, ça m'a marqué, puisque bon, Aya Nakamura, c'était un choix...
Non, moi je te parle que nous. Nous, ça m'a marqué. Et nous, la France, mesdames et messieurs, c'était exceptionnel. Rien à dire. On était vraiment au top du top. Voilà. La chanteuse Renoir qui est sur le palais royal qui chante la Marseillaise.
Ah oui.
Le rock sur... Bref, c'était une dinguerie. Mais la cérémonie d'ouverture de 2008, je n'ai pas quasiment aucun souvenir. Je sais que c'était balèze, hein, je me rappelle, il y avait du monde, je me rappelle que c'était grandiose, mais je n'ai pas un souvenir de ouf, tu vois.
Ah bah, moi, je n'ai pas non plus un souvenir de ouf parce que j'étais jeune quand même, mais c'est en regardant les réseaux que tout le monde n'a pas arrêté de comparer en disant, mais notre niveau, il est... voilà.
Alors que nous, on a eu la meilleure... Non, je suis désolé. On est les boss. C'était la meilleure cérémonie d'ouverture de tous les temps. Je suis désolé.
Le temps n'était pas avec nous.
Hein. Justement, c'était génial. C'était génial. Alors du coup... Parlons un peu de la Chine. Le sport au quotidien, la Chine, j'ai des chiffres assez fous. Près de 400 millions de Chinois pratiquent chaque matin du tai chi, du qigong ou des gymnastiques de parc.
Oh.
Ça, c'est un délire. Chose que nous, on n'a pas forcément. Et l'objectif du gouvernement pour 2035, c'est qu'ils veulent que 40% de la population fasse du sport au quotidien. Et comme on sait qu'ils sont capables de te mettre un coup de crosse dans la nuque si tu ne fais pas ce qu'ils demandent, il est impossible. Donc le sport est fortement encouragé comme outil contre le vieillissement et les maladies chroniques. Même dans le cursus scolaire, les enfants ont environ 3 à 4 heures de sport par semaine, là où nous, ça baisse, plus t'avances, et qu'après, à partir de l'université, si t'as pas fait STAPS, ça n'existe quasiment plus. Et t'as vraiment une envie de mettre la santé dans le sport. C'est le cas aussi en Sud-Corée, tu vois, ils font beaucoup d'étirements le matin.
Oui.
J'ai vu même dans des télé-réalités, regardez La Marque du Diable, un jeu télévisé extraordinaire, vraiment. Ils font des étirements le matin.
Et
nous, on n'a pas ça, en fait.
Non. Et en plus, le matin, ils ont tendance à aller dans les plaines, de monter, hein, de l'escalade. Ils aiment beaucoup marcher. Ils aiment beaucoup la randonnée. C'est vraiment the sport en Corée. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ils font ça le matin et le soir,
mais
au coucher de soleil.
Mais c'est un délire. Moi, tu vois, ça, c'est un truc culturellement, je kifferais, mais on ne nous a pas habitués à ça.
Tu vois,
on n'a pas cette discipline, comme tu disais, ou cette envie de se dire, ah, vas-y, je me lève une demi-heure avant. Et je vais faire des étirements, parce que effectivement ça va me soulager mon dos, c'est meilleur pour la circulation, mon endurance, bref, ma santé. Non, on va se lever 10 minutes, juste avant le moment où on est dans la douche et on est parti, tu vois.
Ah bah oui, non, c'est vrai. Et je me rends compte, quand j'étais là-bas, c'est vrai, à 5h du matin, tu voyais beaucoup de gens aller faire leur footing. Hein.
Ah purée, comment je rêverais pouvoir faire ça.
Ah bah là-bas, les gens ne te regardent même pas, tu vois, ils ne te calculent pas. C'est tellement normal, c'est rentré dans les mœurs, que c'est plutôt celui qui ne va pas le faire le sport qui va être mal vu.
Oui, voilà. Alors que nous, tu vois, t'as ce côté... Oh, tu vas pas te lever le matin pour faire cet étirement. Pff, oh là là. Puis tu sais, ça, t'as connu aussi dans une tra, et ceux qui ont la chance d'avoir une salle de sport ou une salle de sport à côté, qui à l'heure du déjeuner, ils vont faire du sport et après ils reviennent, tu vois.
Oui.
Pareil, c'est pas forcément mis en avant dans notre structure même française, tu vois.
Moi, personnellement, je ne suis pas à faire du sport entre midi et deux, mais je trouve ça bien. Nous, dans notre entreprise, on nous incite et il y a des activités entre midi et deux.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Ouais. Et comme c'est dans les locaux, c'est très pratique et à la douche aussi.
Voilà. Voilà, là, t'as tout dit. Il faut plus de sport, mesdames et messieurs, c'est très important, sachez-le. Parce que si vous voulez vivre longtemps, en bonne santé,
oui.
C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, évidemment, on commence à arriver vers la fin de cette émission. Ça va, ça t'a plu ?
Oui, c'était super.
J'aime bien, c'était super. J'ai été payé pour dire que c'était super. Si je dis pas que c'était
exactement.
Super, je reviendrai pas. Alors évidemment, remerciements à AligrefM 93.1 qui nous permet de faire cette émission. Alors si vous voulez nous envoyer des messages, discutez avec nous @champion_l'émission sur Instagram. La Fédération Française de Tir à l'Arc sur Instagram, vous la retrouvez à FF Tir à l'Arc. La Fédération Internationale de Tir à l'Arc, c'est @worldarchery. Si vous voulez voir un peu ce que fait Limsi Yeon, qui est très discrète alors qu'elle est triple médaillée olympique et que c'est une étoile montante, c'est préparez-vous, elle a un compte Insta de fou, @sfyeon_z, ça c'est un truc coréen.
Ah oui.
J'ai même vu une adresse pareille. Évidemment, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la page Quiz de Foot, c'est un ami qui tient ça et ça vous veut du bien. La PETA, bien sûr, @PETA pour les animaux. Et là, il nous reste une minute ou deux. Je te laisse. Alors, vraiment, t'as deux minutes, pas plus, parce que
ouais.
Toi et moi on est bavards. La Corée.
Ouais.
Vas-y, adjectif, trois adjectifs.
Incroyable.
Ouais.
Agité.
Ah ouais ?
Ouais, et dynamique.
Ok. Est-ce qu'il faut un gros budget pour y aller ?
Non, en vrai non. C'est ce que les personnes pensent, la nourriture est pas chère.
Ouais.
Tu peux aller dans les 7-Eleven, donc les petites... les petites supérettes, exactement, où on a tout et c'est pas cher. Les restos sont pas chers. T'as un centre, le centre commerciaux, ça va, les marques, c'est raisonnable. Et si vous allez en Corée, allez-y au Lotte World, donc le parc d'attractions, ouais. Il est génial et tu regrettes pas. Bon, faut savoir un peu parler coréen parce qu'ils te donnent aucune. Ils parlent pas anglais. Hein. Les gens pensent ça, mais ils parlent pas anglais. Hein. Ils parlent anglais dans certains endroits, mais dans les centres commerciaux et les parcs d'attractions, ils ne parlent pas anglais. Hein. Donc tu te démerdes avec.
Oui, donc c'est cool, faut que tu apprennes la langue, quoi. C'est bien.
Ça va.
Ça va. Maintenant, tu connais un peu.
Alors, un peu, hein. J'étais avec mon amie qui, elle, est bilingue. Donc,
Ah, ok. Mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de ton passage, Shaima. C'était cool. Merci à la régie, bien sûr. Le A, le R, toujours présent. Des bisous aux auditeurs. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Que la force soit avec vous. Faites du sport, c'est très important. Vive la France, vive le général, vive la République.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.